Le monde d'Ulysse avec Kevin Gilbert sur Radio Grand Ciel. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Grand Ciel. Vous écoutez Le monde d'Ulysse, consacré aujourd'hui à Apollon ainsi qu'à son culte. Apollon est le fils de Zeus et de la nymphe Leto. Il a pour sœur jumelle Artémis, la déesse de la chasse. Il est né sur l'île de Délos, île située dans les Cyclades, où sa mère avait trouvé refuge afin de fuir la colère d'Héra, l'épouse légitime de Zeus, qui avait la fâcheuse habitude de châtier les maîtresses de son mari infidèle. Concernant son origine mythique, Apollon, nous la connaissons, je viens de vous la dévoiler, mais l'origine d'Apollon lui-même est un peu floue. Nous connaissons diverses hypothèses, l'hypothèse crétoise, l'hypothèse asiatique et enfin l'hypothèse nordique. Concernant l'hypothèse crétoise, elle repose sur le fait qu'Apollon ait attiré à lui, lorsqu'il a fondé le sanctuaire de Delphes, hein, je vous rappelle, on le développera un peu plus tard, qu'Apollon serait lui-même le fondateur de son propre sanctuaire. Il aurait attiré à lui des marins crétois, afin de les enrôler en quelque sorte dans son culte, afin d'en faire des prêtres. Et il aurait pris la forme d'un dauphin. Mais cette hypothèse est peu probable. Concernant l'hypothèse asiatique, certains spécialistes de la religion pensent qu'il serait issu de la région lycienne, donc une région du sud de la Turquie, donc le sud de la Turquie situé sur le littoral méditerranéen. En effet, Apollon est un dieu qui est adoré par les Troyens lors de la guerre de Troie qui nous est dévoilée dans l'Iliade par Homère. Donc cette hypothèse-là, pour le coup, peut tenir la route, effectivement. Apollon, dieu lycien, je vous rappelle que la Lycie, c'est l'origine géographique de sa mère. Et en plus, il est adoré par une population asiatique, les Troyens. Concernant l'origine nordique, Apollon est en relation avec un peuple qu'on appelle les Hyperboréens. Les Hyperboréens, ce serait donc un peuple mythique situé dans le nord de l'Europe. De plus, Apollon est également le dieu de l'ambre, et il a pour emblème également le cygne qui est pour les Grecs un animal nordique par excellence. De tout ceci, nous pouvons tout de même conclure qu'Apollon est avant tout un dieu syncrétique, c'est-à-dire un dieu qui va regrouper diverses fonctions liées à diverses origines. Concernant les fonctions de ce dieu, Apollon, comme je vous l'avais expliqué lors de l'émission du mois précédent, les dieux grecs n'ont pas une seule fonction, mais plusieurs. Les fonctions de ce dieu sont essentiellement législatives. Effectivement, on se rend compte très vite qu'Apollon était un dieu législateur. Par l'intermédiaire notamment du sanctuaire de Delphes, les cités reçoivent leur constitution. L'exemple le plus marquant est sans doute l'exemple de la cité de Sparte. Sparte qui aurait eu comme législateur mythique Lycurgue, qui aurait reçu justement cette constitution pour l'appliquer à Sparte, il aura reçu dans le sanctuaire de Delphes. Dans tous les cas, nous savons que le sanctuaire de Delphes a un rôle de conseiller auprès aussi bien des particuliers qui viennent poser des questions auprès de l'oracle, mais aussi auprès des États. Nous savons par exemple que la cité d'Athènes a un corps d'ambassadeurs qui sont spécialement dédiés avec les relations diplomatiques avec Delphes. Dieu législatif dans un premier temps, mais c'est aussi le dieu des homicides. Effectivement, c'est un dieu purificateur. Lui-même a dû se purifier après le meurtre du serpent Python, qui serait le fils de Gaïa, lorsque Apollon s'est implanté à Delphes. Donc nous reviendrons sur son mythe, sur ce mythe notamment celui du meurtre du serpent Python, quand on détaillera un petit peu plus le sanctuaire de Delphes. Donc Apollon est un dieu qui va purifier lors d'un rite spécifique, les meurtriers, qu'ils soient volontaires ou involontaires. Car un homicide, lorsqu'il est commis au sein de la cité, au sein du corps civique, c'est une souillure, pas seulement pour la famille, mais pour toute la communauté du meurtrier. Donc il faut laver l'affront, en quelque sorte, laver le crime qui a été commis, et pour ça, il faut s'adresser à Apollon. Donc nous savons aussi que Apollon est quelquefois associé à tort au soleil. Alors certes, c'est un dieu solaire, lumineux, mais attention, il n'est pas pour autant le dieu du soleil. C'est un peu plus tardivement, notamment à l'époque romaine, qu'on a associé Apollon au soleil. Alors Apollon est un dieu lumineux parce que c'est un dieu uranien, de par son père Zeus, qui est un dieu céleste, et aussi lumineux parce qu'il va répandre surtout sa culture, les arts et tout ce qui est beau. Ce qui fait très certainement d'Apollon le dieu grec par excellence, à la fois un dieu à la fois de la beauté artistique, de la beauté du verbe dans la poésie, puisque c'est lui le dieu des muses, et par l'intermédiaire des muses, Apollon va inspirer les poètes. Mais c'est aussi un dieu du voyage, un dieu des expéditions coloniales, comme nous l'avons expliqué lors des émissions consacrées aux colonies, puisque aucune fondation coloniale grecque ne peut se faire sans l'accord, en quelque sorte, sans l'accord du sanctuaire de Delphes, et donc sans l'accord d'Apollon. C'est donc un dieu qui va protéger les marins, les expéditions, et c'est aussi un dieu qui va permettre la fondation de villes. Concernant son culte, nous savons qu'il y a beaucoup de sanctuaires en Grèce même, et même dans l'ensemble du monde grec. Alors certains sanctuaires d'Apollon, certains petits endroits où on va avouer un culte à Apollon, peuvent être des endroits très modestes, hein, comme par exemple une grotte, mais on a d'autres sanctuaires beaucoup plus importants, beaucoup plus monumentaux, et donc forcément beaucoup mieux connus, notamment les sanctuaires oraculaires, donc là je pense particulièrement au sanctuaire de Delphes, et celui de Claros, situé en Asie mineure. On a d'autres exemples, notamment en Béotie, on connaît le sanctuaire de Thèbes, le sanctuaire de Tégir, et le sanctuaire un petit peu montagneux, sanctuaire du Ptoïon, où on a retrouvé un certain nombre de kouros, donc de sculptures archaïques, qui sont exposées actuellement en partie au musée d'Athènes. On connaît aussi le grand sanctuaire, très certainement le plus grand en termes de superficie, pour Apollon, sanctuaire de Dîme, lui aussi en Asie mineure. Nous avons aussi évidemment des sanctuaires dans les Cyclades, le sanctuaire de Naxos, de Paros, et effectivement celui de Délos, lieu où serait né Apollon lui-même, ainsi que sa sœur jumelle Artémis. Concernant son culte, Apollon est honoré parfois seul, c'est le cas à Delphes, ou parfois avec sa sœur, voire même avec sa mère, Leto. Donc lorsque nous avons un culte à la fois dédié à Apollon, Artémis et Leto, donc là nous sommes face à ce qu'on appelle la triade apollinienne, et là nous sommes dans un sanctuaire qu'on va appeler un Délion, Délia au pluriel. Nous avons le plus vieil exemple de cette représentation en Crète, donc dans le sanctuaire de Dréros, situé dans la partie orientale de la Crète, où nous avons trois sculptures dites en sphyrélatone, c'est-à-dire des sculptures en tôle de bronze martelée. Et en fait, ces trois sculptures donc, de l'époque archaïque représentent donc, à la fois Apollon, ainsi que sa sœur et sa mère. Donc dans ce qui était donc disposé dans le petit temple, donc ces trois statues cultuelles étaient aussi en lien avec un élément important du culte d'Apollon, c'est ce qu'on appelle le Kératos Bomos, c'est-à-dire littéralement l'autel des cornes. Une particularité du sanctuaire ou du culte d'Apollon en général, puisqu'en fait ces autels de cornes sont formés en fait d'un amas de plusieurs cornes de chèvre, donc on a un exemple en Crète, à Dréros, et l'autre exemple serait situé justement à Délos. Donc il s'agit vraiment d'une particularité vraiment propre au sanctuaire et au culte d'Apollon. On n'a aucune représentation, aucune autre trace d'autel de cornes pour d'autres divinités. On a donc différents sanctuaires en fonction de la géographie. Donc, on parle d'Apollon délien dans l'espace cycladique, donc les espaces cycladiques, donc notamment les îles qui sont le lieu de naissance d'Apollon, où on trouve des populations ioniennes, qui inclut aussi Athènes. On a aussi l'Apollon donc delphinien, l'Apollon de Delphes, qui lui est honoré seul, ainsi que l'Apollon par exemple épicurios, situé dans le Péloponnèse à Bassae, près d'Olympie, en Attique, sans oublier l'Apollon Carneios de Sparte. Multitude d'épiclèses qui montrent la diversité à la fois d'Apollon, de son culte et de ses fonctions. Donc pour revenir sur le grand sanctuaire de Delphes, qui est très certainement le sanctuaire le plus célèbre consacré à Apollon, donc je vous l'expliquais, Apollon aurait fondé lui-même ce sanctuaire, il aurait même construit le premier temple. Donc ce temple à la base était gardé alors par un serpent nommé Python, qui était le fils de Gaïa, donc la terre, et gardien justement d'un oracle consacré à Gaïa. Et Apollon aurait souhaité s'établir sur ce site et instituer ainsi son propre oracle pour guider les hommes. Apollon va tuer le serpent Python à l'aide de ses flèches, car Apollon est un dieu archer, donc l'arc est une des particularités d'Apollon. Il va tuer donc avec ses traits le serpent qu'il va laisser pourrir au soleil et s'approprier l'oracle. Donc cet épisode nous est raconté dans l'hymne homérique. Donc il s'agit d'un chant dédié à Apollon, chanté à sa gloire par des prêtres. Il va faire ensuite venir ses prêtres, qu'il va, en détournant donc le fameux bateau crétois, épisode que j'avais narré au début de l'émission. Donc ce mythe qui fait donc d'Apollon Pythien, donc littéralement le tueur du serpent Python, fait de lui donc un conquérant, un fondateur, et ce qui explique aussi en quelque sorte l'expansion de son culte, ça va être le succès de son oracle. Donc l'oracle d'Apollon, nouvellement institué à Delphes, va avoir une grande répercussion, une grande importance dans tout le monde grec. Ce qui va faire que très très vite, le sanctuaire de Delphes va devenir un sanctuaire dit panhellénique, qui va donc être... Donc l'Apollon de Delphes va donc être honoré dans toute la Grèce. Donc selon une autre tradition, ce serait celle d'Eschyle, l'oracle a d'abord été celui donc, de la terre, donc de Gaïa, puis celui de divinités féminines successives, et enfin Apollon. Donc pas directement, on aurait donc dans ce cas-là pas directement une succession Gaïa-Apollon, mais Gaïa, des divinités féminines, et enfin Apollon. Donc le sanctuaire de Delphes, je le répète, est donc un sanctuaire oraculaire. Donc c'est-à-dire que la parole du dieu, donc du dieu Apollon, est transmise aux hommes, donc pas directement, donc Apollon ne s'adresse pas aux hommes directement, mais par l'intermédiaire de sa prêtresse qu'on appelle la Pythie. Donc dans la tradition antique, il s'agissait d'une jeune fille, donc vierge, qui était installée sur un trépied. Donc le trépied était un ex-voto très répandu dans le culte d'Apollon. Donc un trépied sacrificiel, donc placé dans la fosse oraculaire, donc dans un espace qu'on appelait l'adyton. En fait, pour faire simple, un temple grec se divise en différentes parties. On pénètre dans le temple par une sorte de vestibule qu'on va appeler le pronaos. Ensuite, on pénètre donc dans l'espace central du temple qu'on appelle le naos, donc l'espace sacré. Et parfois, dans certains grands temples, on a donc la partie qu'on appelle l'adyton. Donc littéralement, l'adyton, ça signifie l'espace où on ne peut pénétrer. C'est-à-dire, c'est un espace qui est réservé, donc bien souvent pour des opérations de type religieuse. Et à la fin, on a une pièce parfois extérieure où on ne peut non plus, on peut pas pénétrer. Donc une pièce, si vous voulez, une sorte d'arrière-boutique qu'on appelle l'opistodome. Dans l'adyton du temple de Delphes, on avait donc une petite crypte où on devait pénétrer afin de pouvoir accéder à la Pythie qui allait interpréter donc la volonté d'Apollon. Dans cet adyton, donc, seraient présents donc des fissures où les anciens Grecs pensaient qu'émanaient donc des vapeurs divines. Ou parfois dans certaines traditions, la Pythie tient une branche de laurier, donc l'arbre du dieu Apollon, je l'avais expliqué la semaine dernière, ainsi qu'une fiale à libation, c'est-à-dire une petite coupe, et qui servait donc à différents rituels. Donc la Pythie mâchait ses feuilles de laurier, inhalait un gaz certainement un petit peu toxique, hein, et entrait en transe. Et donc, cette transe était interprétée par les prêtres d'Apollon, qui ensuite transmettaient à la personne qui avait posé sa question donc le message du dieu. Donc on imagine clairement que l'interprétation dépendait de l'offrande qui était faite à Apollon. Donc plus l'offrande était conséquente, plus le message était positif, hein, ça c'est clair et net. Donc la consultation de l'oracle donc, était au départ donc, annuelle, donc elle avait lieu par exemple le 7 du mois qu'on appelle le mois de Busios, donc ce qui correspond au calendrier actuel, au mois de février-mars. Donc c'était le jour de la fête d'Apollon. Donc elle se fait ensuite, donc non plus tous les ans, mais le 7 de chaque mois. Donc durant la période où Apollon était censé occuper le site, ce que j'expliquerai un petit peu enfin. Donc Apollon n'est pas toujours présent dans le sanctuaire de Delphi, il va prendre la moitié de l'année des vacances pour s'absenter. Et donc ces rites avant la consultation donc, devaient être accomplis donc, en fonction de la prophétesse, donc de la Pythie, et on avait besoin de deux prêtres. Donc ces derniers, donc ces prêtres, exerçaient leur charge pour le coup à vie. Donc on était prêtre d'Apollon à vie. Et c'était eux qui maintenaient le culte et qui organisaient les visites auprès de la Pythie et l'assistaient. Traduisaient aussi ses paroles. Donc les réponses du dieu ont été ensuite transmises donc, en prose et en vers, donc sous forme manuscrite parfois, ou parfois transmises directement à l'oral à la personne qui était chargée de recevoir la réponse. Donc dans le détail, en fait, on a un flou, on ne sait pas trop si la Pythie était visible, parce qu'on n'a pas vraiment de traces fiables sur le sujet. Donc on ne sait pas si la personne qui posait la question pouvait pénétrer dans la Ditone pour voir la Pythie en transe, ou seuls les prêtres pouvaient y aller et ensuite ressortaient de la Ditone après la transe de la Pythie. Donc ça, on ne le sait pas. Comme je le disais, Apollon n'était pas présent toute l'année dans son sanctuaire de Delphes. Effectivement, il partageait ce sanctuaire avec une autre divinité, Dionysos. Donc on sait où était Apollon. Donc Apollon, une partie de l'année, était présent à Delphes, l'autre partie, il était donc chez ces fameux hyperboréens dans le nord. Et pendant ce temps-là, c'était Dionysos qui était en charge du sanctuaire, qui était une divinité, donc qui était en charge et relayait ainsi Apollon. En fait, on peut l'observer ça très facilement, puisque en fait, sur le fronton du temple, donc au niveau du Pronaos, figure Apollon. Alors que sur le fronton de l'Opisthodome est présent justement la divinité de Dionysos. Donc il montre bien le partage du temple et du sanctuaire autour de ces deux divinités. Le sanctuaire de Delphes est aussi un lieu important pour le monde grec, puisqu'il serait situé au centre du monde. En effet, donc dans la mythologie, Delphes était donc le centre du monde, puisqu'il s'y trouvait l'omphalos, donc littéralement le nombril. Donc il s'agissait en fait, cet omphalos, d'une pierre conique qui était placée donc dans la ditone du temple, Ce cône de pierre entouré d'un réseau enchevêtré, dont peut-être des bandelettes, des fils de laine. En tout cas, on sait que ça formait des fils, surmontés de deux aigles en or. Alors pourquoi deux aigles? Parce qu'en fait, dans le mythe, Zeus, pour montrer où se situait le centre du monde, aurait fait partir deux aigles, donc un en direction de l'Occident, l'autre en direction de l'Orient, et ces deux aigles se seraient rencontrés eh bien, juste au-dessus du site de Delphes, afin de montrer que cet endroit figure le centre du monde, donc le nombril du monde. Pour les Grecs, c'est le site de Delphes. Sanctuaire de Delphes, sanctuaire oraculaire, sanctuaire panhellénique, centre du monde. Apollon, c'est donc, comme on peut le constater, une divinité majeure du panthéon grec, puisque c'est la divinité qui va, dans un premier temps, rendre les oracles, qui va permettre la colonisation du monde grec. C'est aussi donc le centre du monde. C'est un lieu où auront lieu des concours, comme on en parlera tout à l'heure, quand je vais évoquer les fêtes, mais c'est aussi du coup un laboratoire géographique, c'est un lieu où se condensent des données géographiques importantes, puisque c'est là qu'on va condenser tous les départs, toutes les arrivées et des expéditions. Dans la religion grecque, il faut faire une place majeure pour les fêtes religieuses, et celles qui concernent Apollon donc, ont lieu essentiellement lors des saisons du printemps et celles de l'automne, le septième jour du mois, car Apollon serait né le septième jour, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, du mois de février-mars. La plupart des fêtes en l'honneur d'Apollon, ce sont des fêtes agraires, comme en Laconie ou à Sparte, ou aussi dédiées donc, à l'art et à la poésie, puisque Apollon est une divinité, comme je l'ai dit auparavant, une divinité très étroitement liée à ces deux thèmes, chers aux Grecs. Et ces fêtes dédiées à Apollon en lien avec l'art et la poésie sont présentes notamment sur l'île de Délos, l'île native du dieu Apollon. Mais aussi à Delphes, puisqu'à Delphes auront lieu ce qu'on appelle les jeux pythiques, donc, c'est-à-dire des jeux non pas sportifs comme on pourrait le penser pour les Jeux Olympiques, mais là ce sont des jeux artistiques qui ont lieu tous les 4 ans, le 7e jour du mois de septembre. Donc on aura des concours de poésie, des concours de diction, etc., etc. On aura aussi quelques jeux sportifs, hein, d'où la présence du stade, pour ceux qui ont la chance de connaître le site de Delphes et qui ont pu le visiter. Donc tout en haut de l'esplanade du sanctuaire se trouve effectivement un grand stade très très bien conservé. Donc le culte de Delphes sera donc évidemment un espace très fréquenté par les Grecs, hein, d'où la présence des petits bâtiments qu'on appelle les trésors. Donc ce sont des petits endroits, donc des sortes de temples miniatures d'un point de vue d'architecture, où seront placés tous les ex-votos, donc toutes les offrandes faites à la divinité. Et donc chaque cité aura son trésor. Donc on peut trouver notamment le trésor des Athéniens qui a été restitué. On a aussi trouvé le trésor des Marseillais. Donc pour montrer vraiment le côté panhellénique d'Apollon, c'est pas seulement une divinité grecque de la péninsule, mais vraiment une divinité du monde grec, et surtout en ce qui concerne le site de Delphes. Apollon, si on récapitule un petit peu, c'est à la fois un dieu des arts, un dieu lumineux, un dieu du voyage, un dieu des expéditions coloniales, donc c'est aussi un dieu donc, dont l'origine est un petit peu flou, peut-être nordique, peut-être asiatique, mais en tout cas pour revenir sur son origine, quelque chose qui nous fait dire que c'est un dieu issu d'un syncrétisme, c'est qu'il porte, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un arc. Et l'arc, si on regarde l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, ce n'est absolument pas l'arme du combattant grec par excellence. Les seuls, entre guillemets, héros grecs qui portent un arc, donc on connaît donc Apollon, sa sœur Artémis, qui est déesse de la chasse, mais aussi Héraclès. Et Héraclès, donc, tout comme Apollon, ce sont donc des personnages issus donc, de la mythologie indo-européenne. On retrouve des exemples de comparaison entre Héraclès et certains héros iraniens ou indiens. Et dans ces deux cas, ils portent un arc. Donc Apollon, c'est donc une divinité syncrétique, issue donc de diverses cultures, tantôt égéennes, tantôt grecques continentales, puisque c'est aussi un protecteur des troupeaux. Et donc, son culte va être divers en fonction de l'origine géographique du culte. Ce qui fait d'Apollon peut-être la plus grecque des divinités, c'est son lien avec l'art, la poésie, la culture, mais aussi avec la législation. C'était le monde d'Ulysse, consacré au culte d'Apollon. Nous nous retrouverons le mois prochain afin de découvrir un nouvel aspect de l'histoire et de la culture grecque.